Tic-tac, tic-tac, il est 15h à Paris, 16h à Kiev. Sur RFI, l'heure de retrouver Charlotte Hydrac pour le journal. Bonjour.
Tic-tac, tic-tac. Bonjour Pascal Paradou. Tiercé gagnant pour les Républicains aux États-Unis. Ils ont la main sur la Maison-Blanche, ils ont gagné le Sénat et désormais, ils gardent le contrôle de la Chambre des représentants. Un nouveau rapport qui accuse Israël. Human Rights Watch accuse l'État hébreu de transfert forcé de population dans la bande de Gaza et ça... Cela constitue un crime de guerre. En France, réaction divisée au sein de la classe politique avec les réquisitions qui visent Marine Le Pen, la chef du RN, pourrait être empêchée de se présenter à la prochaine présidentielle. Et puis l'Australien Brett Robinson, élu à la tête du rugby mondial, s'est raté de peu pour l'ancien capitaine du 15 de France, Abdelatif Benazi. Des ordres d'évacuation à répétition à Gaza qui mènent à des déplacements forcés de civils. C'est donc un crime de guerre selon Human Rights Watch qui publie un nouveau rapport aujourd'hui à charge contre Israël. Crime de guerre, ce n'est pas une accusation en l'air, insiste Ahmed Benchemsi de l'organisation. Il y a des preuves, dit-il, de transfert forcé de civils.
Bien sûr, l'armée israélienne prétend qu'elle évacue tous ces gens pour leur bien et pour leur sécurité et qu'elle le fait d'une manière légale et avec des justifications juridiquement acceptables. Sauf que nos recherches prouvent le contraire. Parce qu'Israël a fait quatre choses. Premièrement, Israël a mis en place un système d'évacuation des civils incohérent, peu fiable, peu clair et très imprécis. Un système qui met les civils déplacés en danger plutôt que de les protéger, comme le réclame la loi de la guerre. Deuxièmement, Israël a dit aux civils déplacés d'emprunter des voies d'évacuation soi-disant sûres, pour se rendre dans des zones soi-disant sûres. Et puis, ils ont bombardé les deux. Troisièmement, Israël non seulement n'a pas fourni de nourriture, d'eau et d'abri aux civils palestiniens déplacés, comme le réclament les lois de la guerre, encore une fois, mais Israël a même bloqué les aides humanitaires et a instrumentalisé la famine comme arme de guerre, ce qui est un crime de guerre énorme. Et enfin, quatre, Israël a systématiquement détruit des parties de Gaza pour les rendre inhabitables, dans le cadre d'une politique délibérée visant à empêcher le retour des Palestiniens. Vous savez comment ça s'appelle, ça ? Du nettoyage ethnique.
Voilà l'argumentaire d'Ahmed Benchemsi de Human Rights Watch, joint par Oriane Verdier sur le front libanais. L'armée israélienne indique avoir frappé aujourd'hui une trentaine de cibles dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah libanais. Israël qui a menacé de frapper des installations nucléaires de l'Iran, son ennemi juré. Ces installations ne doivent pas être attaquées, selon le patron de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, en visite en ce moment à Téhéran pour des discussions autour du programme nucléaire de la République islamique. Le chef de la diplomatie iranienne, lui, a prévenu « pas question, dit-il, de négocier sous la pression ». Il est connu justement pour sa ligne dure face à l'Iran et également face à la Chine. Marco Rubio, confirmé par Donald Trump au poste de secrétaire d'État, donc à la tête de la future diplomatie américaine. Pour la direction nationale du renseignement, le président américain élu a choisi Tulsi Gabbard. Elle avait notamment pris position en faveur de la Russie. Donald Trump, qui avait déjà récupéré une majorité républicaine au Sénat, et bien désormais, les républicains sont aussi assurés de contrôler la Chambre des représentants. C'est un carton plein, Guillaume Nodin.
Il a fallu plusieurs jours de décompte, et ce n'est d'ailleurs pas terminé, mais les Républicains conservent la majorité à la Chambre, même le leader démocrate Hakeem Jeffries le reconnaît. La victoire est donc totale pour le Grand Old Party. En venant voir les élus à Washington avant d'aller à la Maison-Blanche, Donald Trump a d'ailleurs triomphé sous les applaudissements en disant plusieurs fois qu'il est agréable de gagner. Mais cette victoire est ténue, et son allié Mike Johnson, speaker de la Chambre sortante, et qui devrait le redevenir dans la prochaine, lui a demandé de ne plus venir chercher dans son groupe les personnes qu'il entend nommer au gouvernement, sous peine de mettre en danger cette majorité. Au Sénat, il y aura un recomptage des voix en Pennsylvanie, mais cela ne changera rien. Les sénateurs républicains seront les plus nombreux. Ils ont désigné leur leader, l'élu du Dakota du Sud, John Thune. Jusque-là, numéro 2 du groupe, il s'impose à bulletin secret, face notamment au sénateur de Floride, Rick Scott. Allié de Donald Trump et soutenu publiquement par l'influent milliardaire Elon Musk, John Thune annonce que, contrairement à ce qui était souhaité par Donald Trump, le Sénat assumera son rôle de contrôle et de confirmation des personnes choisies par le président pour composer son administration. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Au Brésil, l'ex-président Jair Bolsonaro appelle au dialogue et à la pacification, je cite, après l'attaque qui a visé la Cour suprême hier à Brasilia. Un homme qui portait des explosifs a tenté de pénétrer dans le bâtiment. Il a été retrouvé mort après les explosions. Les autorités locales ont avancé la piste d'un loup solitaire alors que le président brésilien Lula accueille dans quelques jours un sommet du G20. L'absence des délégués argentins à la COP29 de Bakou en Azerbaïdjan. L'équipe d'experts s'est retiré des négociations. Et cela à la demande du président argentin climato-sceptique Javier Milei. Plus de délégation argentine donc, mais les travaux continuent pour les participants, avec au centre des discussions cette année les nouvelles promesses de financement pour aider les pays émergents et en développement à atténuer leurs émissions et à s'adapter au réchauffement climatique. Encore faut-il connaître les besoins. Alors pour ça, le groupe d'experts de haut niveau sur la finance climatique a livré ses nouvelles estimations. Ces besoins mondiaux, ils sont énormes, Pauline Glaise, entre 6 300 et 6 700 milliards de dollars d'ici 2030, et ça c'est par an.
Vous voyez, cette enveloppe, elle correspond aux besoins pour financer, entre autres, la transition énergétique et l'adaptation au réchauffement climatique dans le monde. Mais à Bakou, les négociations portent principalement sur la contribution des pays riches pour aider les autres à financer cet effort. Or, sur les 6 500 milliards de dollars nécessaires au niveau mondial, une grande partie correspond à l'investissement dans les pays développés. Les pays émergents et en développement hors Chine auront, eux, besoin de 2 500 milliards par an d'ici 2030. Alors selon les experts, les pays devront trouver une bonne partie des ressources en interne. Ils estiment les besoins de financement extérieur à 1 000 milliards de dollars annuels. C'est nettement plus que ce qui se fait actuellement. Quand il y a besoin d'un tel flot d'argent, Charlotte, toutes les ressources doivent être mobilisées, finances privées, banques multilatérales de développement et aides publiques bilatérales, entre autres. Selon l'un des auteurs du rapport, la part de financement qui devrait reposer sur les épaules des pays développés se situerait entre 300 et 400 milliards de dollars par an, soit au moins trois fois plus que l'engagement précédent. C'est la question qui brûle toutes les lèvres dans les couloirs de la COP. Et c'est un enjeu important des négociations à Bakou pour l'action climatique et essayer de rétablir la confiance Nord-Sud.
Pauline Glaise est en marge des discussions sur le climat. Le négociateur en chef de l'Azerbaïdjan a tenté de calmer le jeu après l'incident diplomatique avec la France hier. À ces propos du président Ilan Aliyev qui a accusé Paris de crimes, je cite, notamment en Nouvelle-Calédonie. Conséquence, la ministre française de la transition écologique a annulé son déplacement à Bakou. Selon la présidence donc de la COP29, la porte reste ouverte. Dispositif sécuritaire exceptionnel, c'est un match sous très haute surveillance qui se jouera là ce soir au Stade de France, match de foot. France-Israël, après les violences de la semaine dernière entre supporters en marge d'un match du Maccabi Tel Aviv à Amsterdam. Alors là, une faible affluence de spectateurs est attendue au Stade de France. En revanche, il y aura foule de personnalités politiques, notamment le président Emmanuel Macron. 4000 policiers et gendarmes seront déployés. Coup d'envoi 20h45. En France, toujours beaucoup de commentaires après les réquisitions qui visent Marine Le Pen. 5 ans de prison, dont 2 fermes, et 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate requis contre la chef du Rassemblement National, jugée dans l'affaire des faux assistants du Parlement européen, selon l'accusation. Donc concrètement, Marine Le Pen pourrait être empêchée de se présenter à la prochaine présidentielle. Qu'en pensent ses adversaires, Raphaël Delvolvé ?
Pour la gauche, Duralex, Sedlex, la loi est dure, mais c'est la loi, même quand on est la candidate du premier parti de France, Arthur Delaporte, député socialiste.
On ne peut pas avoir un double discours. D'un côté, il faut être extrêmement sévère avec ceux qui commettent de petits délits, et ceux qui détournent des milliers, voire des millions d'euros d'argent public, eux devraient être impunis.
Position partagée à droite également, notamment par Xavier Bertrand, président LR des Hauts-de-France. Mais tous les adversaires du RN, y compris les plus résolus, ne sont pas sur la même ligne. On combat Marine Le Pen dans les urnes et pas ailleurs, écrit notamment l'ex-ministre Gérald Darmanin. Problème démocratique soulevé également par le député Richard Ramos, dont la formation, le Modem, a comme le RN été accusé de détournement de fonds publics.
Ce serait quelque part tordre un peu le coup à la démocratie, surtout qu'elle peut devenir présidente. Moi j'espère qu'elle ne le sera pas, mais en tout cas je souhaite qu'elle puisse devenir candidate à l'élection présidentielle.
Au Rassemblement National, évidemment, l'inquiétude grandit. Les troupes lepénistes en appellent à l'opinion. le député Thomas Ménager.
Dans l'intérêt de notre pays et de la confiance en la vie politique, de la confiance en la justice, il serait très grave que les juges Dupont suivent ces réquisitions.
La décision des juges, dans tous les cas lourde de conséquences, est attendue en début d'année prochaine.
Et puis l'Australien Brett Robinson, élu à la tête du rugby mondial World Rugby, s'est donc raté, mais de peu, pour l'ancien capitaine du 15 de France, Abdelatif Benazi. Tout de suite, Anne-Cécile Bras pour C'est pas du vent. Bonne émission.